Un symbole pris pour cible à Païta, le monument aux morts a été détérioré pour la troisième fois en deux mois. La mairie va le reconstruire et le surveiller. Et Michael Forest doit démissionner, c'est la conviction des membres non indépendantistes du gouvernement après la série de voyages controversés de l'élu UC en Azerbaïdjan, à Paris puis en Corse. Une nouvelle nuit de violence en vue au Royaume-Uni. Des manifestations anti-immigration et des contre-manifestations sont prévues un peu partout dans le pays. Il était le visage des jeux du petit écran, des chiffres et des lettres. Fort Boyard, l'animatrice Patrice Lafont s'est éteint dans le Luberon à l'âge de 84 ans. Le sport avec une médaille en bronze en taekwondo, une autre assurée en boxe ce matin avec la finale de Sofiane Amaoui à 7h30. En tennis de table, l'équipe de France des frères Lebrun est en demi-finale face à la Chine. Et puis côté sport co, fortune diverse pour les équipes de France. On retiendra notamment que les handballeurs français peuvent nourrir de sérieux regrets après leur élimination en quart de finale. Ils n'ont pas réussi à se sortir d'une mauvaise passe. La météo, le ciel est très nuageux à couvert pour aujourd'hui. Quelques éclaircies dans l'après-midi, seulement sur la façade ouest. Quant aux températures, eh bien elles remontent un peu pour les maximales. Elles oscillent entre 22 et 26 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec la commune de Païta qui a de nouveau été victime d'exactions hier. Le monument aux morts de la commune a une nouvelle fois été dégradé. C'est la troisième fois d'ailleurs que le site est touché depuis le début des émeutes le 13 mai dernier. Et les dommages sont particulièrement lourds. Les précisions d'Antoine Romain, le directeur de cabinet du maire de Païta.
Si la période qu'on vient de passer était relativement calme, on signale malgré tout une nouvelle fois, et c'est extrêmement regrettable et ça nous met très très en colère à Païta, de nouvelles exactions au niveau du monument aux morts de notre commune. C'est la troisième fois en deux mois que ce site est dégradé, fortement dégradé cette fois-ci par des individus sans foi ni loi. Donc effectivement, après l'incendie qui avait ravagé les bâtiments qui se situent à côté de ce site, et notamment celui qui hébergeait les anciens combattants, cette fois-ci c'est le monument lui-même qui était dégradé, qui était profané, hein, avec des inscriptions, des stèles démontées, des stèles cassées au pied du monument aux morts. Alors évidemment, c'est extrêmement déplorable vu la portée symbolique de ce monument. Évidemment, on va remettre en place et remettre en œuvre et repeindre et repositionner tous les éléments qui ont été dégradés et puis le faire surveiller. Mais en fait, une nouvelle fois, c'est ce symbole qui a été pris à partie et pris pour cible, ce qui est absolument inacceptable.
La mairie a déposé plainte et une enquête a été ouverte. Michael Forest est un globe-trotteur de la CCAT. C'est l'accusation portée par certains de ses collègues au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir participé au congrès des colonies françaises à Bakou, Michael Forest était ces derniers jours en Corse, où il a participé à un rassemblement des autonomistes et des indépendantistes. Face à son attitude et en raison de ses absences répétées, certains membres du gouvernement demandent sa démission. C'est ce que nous a dit Christopher Gigès.
On était déjà intervenu pour dire que Michael Forest ne s'exprimait pas à Bakou au titre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et n'engageait pas le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans ses propos. Aujourd'hui, on a un deuxième souci, c'est-à-dire que Michael Forest n'est plus membre du gouvernement. Michael Forest est un globe-trotteur de la CCAT qui passe par Bakou, à Paris, à Genève, à New York, à Caracas et dernièrement à Corte. Ça fait trois mois qu'il n'est pas en Nouvelle-Calédonie. Il n'a assisté qu'à une seule séance du gouvernement. Néanmoins, il continue de toucher sa paye et donc aujourd'hui, sa place n'est plus au gouvernement et il devrait démissionner. Il a abandonné ses secteurs. Il a abandonné le secteur de la culture, de la jeunesse et des sports. Il continue à toucher un salaire. C'est totalement irrespectueux, à la fois pour l'institution qu'il représente, mais également pour tous les Calédoniens qui souffrent aujourd'hui de la situation.
Christopher Gigès qui a donc demandé avec les autres membres non indépendantistes du gouvernement la démission de Michael Forest hier matin lors de la séance hebdomadaire de l'exécutif.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. Selon vous, Michael Forest doit-il démissionner du gouvernement? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. 64% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS trouvent qu'il est justifié de fermer le collège de Rivière-Salée qui a été en grande partie détruit par les émeutes. Ils sont donc 36% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et on termine avec un rendez-vous d'antenne dans ce 6-8, près de trois mois après le début de l'insurrection. Quel bilan en dresse la police nationale ? La situation à Nouméa est-elle normalisée ? Quelles ont été les actions de la police ? Et reste-t-elle mobilisée ? Ce sont les questions que nous poserons tout à l'heure à Anne-Gabrielle Guébélil, la directrice adjointe de la police nationale. Elle sera en effet notre invitée du matin à 7h30. En attendant, il est 6h36. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité sur le territoire. Ce sera juste après la publicité.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Jusqu'au 30 septembre, avec Canal+, à vous le cinéma ultra récent. À seulement 5000 francs par mois, pendant 6 ou 12 mois. Wonka, le dernier Jaguar, 57 secondes, Sound of Freedom. Le meilleur du cinéma et toutes les chaînes Canal+, à seulement 5000 francs par mois, pendant 6 ou 12 mois. Rendez-vous dans vos boutiques Canal+. Jusqu'au 30 septembre, pour tout nouvel abonnement de 12 ou 24 mois, à partir de la formule Sélection Plus, bénéficiez pendant 6 ou 12 mois du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
C'est la fête des animaux chez Cheval Distribution. Jusqu'au 25 août, les aliments préférés de nos animaux, les croquettes supercôtes pour chiens, les croquettes One pour chats et pâté Félix, sont à prix imbattable chez Cheval Distribution. Alors précipitez-vous, ayez le réflexe Cheval Distribution. Votre animalerie jardinerie à Bellevue, ouvert tous les jours.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Dans le reste de l'actualité ce matin, les permis de conduire délivrés depuis le 18 juillet avec le drapeau du FLNKS sont illégaux. C'est ce qu'affirme Génération NC, qui était d'ailleurs à l'origine de la saisine du tribunal administratif de Nouméa sur cette question, Isabelle Pelletier.
Le parti de Nicolas Metzdorf avait saisi la juridiction administrative au motif notamment que cette mesure du gouvernement n'avait fait l'objet d'aucun vote au gouvernement et qu'elle ne respectait donc pas les termes de l'accord de Nouméa en matière de signes identitaires. Le 18 juillet dernier, le tribunal administratif a donné raison à Génération NC et a interdit au gouvernement de délivrer des permis de conduire comportant le drapeau du FLNKS. Et la décision du gouvernement, entérinée hier en séance hebdomadaire, de faire appel de cette décision, ne change rien, explique Nina Julier, porte-parole de Génération NC.
Le tribunal administratif, lorsqu'il a condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à retirer le drapeau du FLNKS des permis de conduire, a été très clair. La décision est tombée le 18 juillet et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait dû arrêter d'imprimer ses permis depuis cette date. Nous avons appris récemment que le gouvernement comptait faire appel, mais en aucun cas au tribunal administratif, l'appel est suspensif, c'est-à-dire que le gouvernement doit exécuter la décision du tribunal administratif.
Génération NC constate toutefois que depuis le 18 juillet, rien n'a changé et va signaler la situation au tribunal administratif.
Étant donné que la délivrance actuelle des permis de conduire avec le drapeau du FLNKS est illégale, nous invitons tous les Calédoniens à refuser évidemment de prendre ces permis et de nous en informer le plus tôt possible. Nous attendons maintenant de savoir comment le tribunal administratif va réagir et nous verrons ensuite comment nous pourrons poursuivre notre procédure en justice.
L'affaire n'est donc pas terminée, mais elle a déjà une conséquence directe. Tous les permis délivrés depuis le 18 juillet avec le drapeau FLNKS ne sont donc pas valables au regard du droit administratif. Seuls ceux délivrés avant cette date peuvent être conservés, car le tribunal n'avait pas ordonné leur retrait ni leur échange.
Hier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté la décision modificative numéro 4 de son budget principal. Il s'agit d'intégrer l'enveloppe d'€1 million, soit près de 120 millions de francs, octroyés par l'Union européenne. Elle avait été sollicitée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une aide qui est fléchée puisqu'elle est destinée à renforcer les mesures liées au maintien de la transition énergétique, mais aussi à assurer la réduction de la fracture énergétique. Sur ce sujet, le gouvernement prévoit la création d'ailleurs d'une aide énergie exceptionnelle pour les personnes en situation de précarité, c'est-à-dire celles qui ont perdu leur emploi après les émeutes. Cette aide consiste à la prise en charge de la facture d'électricité pour ces personnes dans la limite de 5 000 francs par mois et pour une durée de 4 mois. Dans l'actualité institutionnelle, les mesures exceptionnelles en faveur de la caisse locale des retraites au menu des élus du Congrès qui sont convoqués en séance publique à partir de 9h ce matin. Les conseillers examineront également la décision modificative numéro 3, ce coup-ci, du budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie. Et puis le conseil municipal du Mont-d'Or est convoqué lui aussi ce matin. Il se réunira exceptionnellement à 10h en raison du blocage de la RP1 à la hauteur de Saint-Louis. Un horaire qui devrait permettre à tous les élus et conseillers d'être présents. À l'ordre du jour, la décision modificative numéro 1 du budget annexe eau et du budget annexe ordures ménagères. Les conseillers doivent également approuver le programme de travaux de revêtement routier sur la commune.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h40.
L'actualité économique et les commerces du centre-ville de Nouméa qui retrouvent un second souffle. Avant le 13 mai, le centre-ville se vidait petit à petit et il n'était pas rare de voir des panneaux à vendre sur les devantures. La tendance s'inverse désormais puisque le centre-ville fait office de bulle d'air et de semblant de retour à la vie normale. Les commerçants sont donc unanimes, les clients reviennent et arrivent de tout le Grand Nouméa pour faire leurs achats. Écoutez Ronan Delay, il est le président du syndicat des commerçants en Nouvelle-Calédonie.
On remarque une nouvelle clientèle en fait sur le centre-ville. Ce sont clairement des clients qui viennent du Grand Nouméa, que ce soit de Païta, d'Ambea, Kutio, soit parce qu'ils ne se sentent pas trop en sécurité dans ces zones-là, très impactées par la violence et les exactions, soit tout simplement parce qu'il n'y a plus de commerce. Je pense à une zone comme Païta où quasiment 100% des commerces ont été détruits. De ce fait, les gens viennent faire leurs courses au centre-ville. On espérait une reprise de l'activité au centre-ville avant les émeutes, pas sous cette forme-là, mais ce qui est certain, c'est que l'attrait de la ville est reparti de l'avant depuis peu.
Et malgré ce regain de clients, les commerçants voient cette situation comme temporaire. Ils restent d'ailleurs toujours inquiets quant à un retour aux exactions qui pourraient cette fois toucher le centre-ville. Cela fait bientôt 3 mois maintenant que les exactions ont débuté, vous le savez. La situation s'est plutôt calmée, mais les émeutes, particulièrement violentes au début, ont laissé des traces profondes, notamment sur le monde économique. Alors quel bilan économique et social peut-on dresser? Quels sont les défis à relever et comment? Est-ce que le monde économique s'est organisé? Rendez-vous ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour parler de toutes ces questions. Jean-François Bodin recevra la présidente du MEDEF, Mimsy Delay, le président de la CCI, David Guyenne, et celui de la FINC, Xavier Benoît. Rendez-vous donc à midi pour les jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu. Il est 6h43, vous écoutez RRB après la pause, l'actualité dans le monde avec des émeutes au Royaume-Uni. Une nouvelle nuit de violence est en vue puisqu'il y a des manifestations et des contre-manifestations organisées aux mêmes endroits. Et puis en métro, on a appris ce matin le décès de l'animateur de télévision Patrice Lafont.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Démonter dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
C'est sur le thème de gourmand que le marché de Mamie se tiendra ce dimanche 11 sur la place de la mairie de Farino de 8h à midi. Produits locaux de terroir ainsi que des fruits et légumes de saison, des produits vivriers, des plantes, des fleurs, de l'artisanat local fait main, de la charcuterie, de la vanille, du miel. Mais ce mois-ci, vous pourrez aussi déjeuner sur le deck de la mairie. Plusieurs stands vous feront déguster de leurs spécialités. Alors venez passer un bon moment de détente avec votre famille. En venant au marché de Mamie à Farino ce dimanche 11.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le Royaume-Uni, je le disais, se prépare donc à de nouvelles violences au cours des prochaines heures. Des manifestations anti-immigration et des contre-manifestations sont prévues un peu partout dans le pays. Et la police est mobilisée, Isabelle Pelletier.
Oui, ces groupuscules appellent à des rassemblements, notamment devant des cabinets d'avocats assistant juridiquement les demandeurs d'asile. Une liste de 60 centres de conseils en immigration aurait ainsi été diffusée sur Telegram. La ministre de la Justice, Shabana Mahmoud, a dénoncé des menaces inacceptables pesant sur les avocats à l'issue d'une nouvelle réunion de crise mardi. Le Premier ministre Keir Starmer, ancien chef du parquet en Angleterre et au Pays de Galles, avait affirmé s'attendre à des peines lourdes pour les émeutiers. Environ 400 arrestations ont déjà eu lieu depuis le début des heures et une centaine de personnes inculpées. Des poursuites pour terrorisme seraient même envisagées. Pour faire face à ce nouvel appel national aux émeutes, ce matin pour nous, le gouvernement mise sur un dispositif sécuritaire renforcé. 6000 policiers spécialisés dans les émeutes sont mobilisés en prévision d'arrestations multiples. Ces violences au Royaume-Uni interviennent, on le rappelle, plus d'une semaine après le meurtre de 3 fillettes lors d'une attaque au couteau. C'était dans le nord-ouest de l'Angleterre.
Et puis d'intenses combats dans la région de Koursk, près de la frontière ukrainienne. Moscou affirme que l'aviation et l'artillerie russes ont stoppé l'avancée en profondeur d'un millier de soldats ukrainiens et de dizaines de chars et de blindés qui tentent depuis deux jours maintenant une incursion dans le territoire. De son côté, Kiev ordonne l'évacuation d'environ 6000 habitants de la région. Vladimir Poutine a dénoncé une provocation à grande échelle et accusé les troupes ukrainiennes de tirer de manière aveugle avec différents types d'armes, y compris des roquettes, sur des bâtiments civils, des habitations et des ambulances. Fin de citation de Vladimir Poutine. Et puis 10 mois tout juste après les attaques du 7 octobre, Emmanuel Macron a téléphoné au président iranien Massoud Pezeshkian. Le chef de l'État a tenté de dissuader Téhéran de répondre à Israël après l'élimination sur son sol du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Une élimination imputée à l'État hébreu. Depuis près d'une semaine maintenant, la communauté internationale craint un embrasement au Proche-Orient. Et puis toujours dans l'actualité à l'étranger, le chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh a quitté Paris pour rejoindre Dakar. Mahmoud Yunus devrait nommer dès demain un gouvernement de transition chargé d'organiser des élections d'ici 3 mois. Aujourd'hui, le nouveau chef de la police a présenté ses excuses auprès de la population. La répression d'un mouvement étudiant a fait près de 400 morts.
Info matin, 6h46.
L'actualité en métropole à présent est une forêt ratissée pour tenter de retrouver Lina. Les recherches sont toujours infructueuses et se sont terminées il y a quelques heures pour nous. Dans cette forêt fouillée depuis hier en Haute-Saône, près de Sceaux, à la recherche de traces éventuelles de l'adolescente de 15 ans. Les recherches avaient commencé très tôt le matin et les gendarmes étaient très nombreux sur le terrain. Mais Lina Fachin était sur place pour Europe 1.
Peu avant 7h du matin, 90 gendarmes sont revenus. Ici, ils ont été rejoints aujourd'hui par des militaires de l'armée de terre spécialisés dans la recherche de corps enterrés. Les enquêteurs bloquent toujours le chemin d'accès à cette portion de forêt d'une centaine d'hectares. Un peu plus loin, dans une prairie, ils ont installé 3 tentes blanches et ont apparemment débroussaillé une partie de la végétation. Nous sommes à 130 km de plaine, lieu de disparition de Lina. Mais le suspect numéro 1 dans cette affaire a fait un arrêt ici ce jour-là, selon le GPS de sa voiture. Pour les habitants de la petite commune de Sceaux, juste à côté. Tout cela est forcément perturbant. Fabrice, le patron du bar du village, a encore du mal à réaliser.
Bah déjà, c'est horrible. Hein, c'est horrible de voir des choses pareilles. Et puis, ça fait bizarre. Quoi, hein. On croit toujours que ça peut arriver qu'ailleurs, mais un petit bête comme ici, ben voilà. Qui la retrouve, la pauvre gamine, là, hein, qui puisse restituer à sa famille et puis voilà, qui puisse faire leur deuil. Quoi.
Mais il serait surpris, dit-il, que le corps de Lina soit dans cette forêt très fréquentée par les chasseurs. Depuis septembre, ils auraient forcément retrouvé quelque chose, estime-t-il. Les fouilles pour aujourd'hui se sont terminées il y a 3 quarts d'heure sans que l'on sache si elles ont été concluantes. Elles devraient reprendre demain.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Et puis la lutte contre la guerre des gangs à Grenoble. Le préfet de l'Isère et le procureur de la République se sont rendus dans le quartier sensible de Tesserre, où un homme en trottinette électrique a ouvert le feu dimanche, tuant 1 personne et en blessant 2 autres. Et puis mardi, à Échirolles, dans l'immeuble Le Carrare, une nouvelle fusillade a éclaté. Les forces de l'ordre restent donc mobilisées. Écoutez Éric Vaillant, le procureur de Grenoble.
Ce qui s'est passé à Tesserre il y a quelques jours, ce qui s'est passé au Carrare, enfin, tout ça est lié au trafic de stupéfiants. Tesserre donc avec un milieu albanais, le Carrare avec nos trafiquants habituels d'Échirolles. On a beaucoup de faits de tirs d'armes à feu, plus d'une quinzaine depuis le début de l'année, avec 3 homicides depuis le début de l'année. Mais c'est juste la suite de ce qui s'est passé en 2023, où on avait déjà beaucoup de tentatives de meurtre et de coups de feu de la même façon. Toujours pour les mêmes raisons. C'est extrêmement rémunérateur ce trafic. Entre 30 000 et 40 000 euros de chiffre d'affaires jour sur nos principaux points de deal. Donc ça justifie voilà, de la convoitise, mais nous on ne va pas s'arrêter. Je pense qu'il faut agir tous azimuts. Le vendeur du jour, les enquêtes au long cours, les opérations de coups de poing, les opérations de place nette, même si on en a fait une en mars, on en refera et il faut continuer. On ne lâche pas.
Un chiffre d'affaires de 30 à 40 000 euros par jour, hein, ça correspond à 110 millions de francs pacifiques par mois. C'était donc Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble. Et enfin, il était le maître des jeux du petit écran. Patrice Laffont est décédé d'un infarctus. Il était l'un des animateurs les plus familiers de la télévision française, notamment dans les années 70. Des chiffres et des lettres, Fort Boyard, Pyramide. Il s'est éteint dans le Luberon. Retour sur une carrière hors norme, signée Yasmina Katou pour Europe 1.
En 1972, les Français découvrent Patrice Laffont dans « Des chiffres et des lettres ». Jusqu'en 89, le jeune animateur apprend chaque après-midi à des millions de Français à lire et à compter. Une fierté pour celui qui n'a pas eu le bac. Mais en 1990, le compte n'est plus bon. Il se lasse de son rôle de maître d'école. La star Star des chiffres devient le maître du Fort Boyard. Le jeu télévisé réunissait au départ de parfaits inconnus, mais deux saisons plus tard, des stars prennent la place des anonymes. Mais ce changement n'enchante pas Patrice Lafont. Écoutez le présentateur, il était interrogé par Jean-Philippe Longo pour Europe 1 il y a tout juste 10 jours.
J'ai toujours préféré les candidats lambda parce qu'ils se battaient comme des fous. Donc le fric qui tombait, ils se le partageaient. Je préférais quand les candidats lambda, on n'avait rien à foutre de savoir s'ils étaient décoiffés ou leur maillot était un peu sali, tandis que les vedettes font hyper gaffe à leur image.
Parallèlement à Fort Boyard, la star anime le jeu complexe Pyramide avec la fameuse Pépita. Mais au début des années 2000, Patrice Lafont est boudé par le petit écran. Il décide alors de revenir à son premier amour, le théâtre. Il devait d'ailleurs remonter sur les planches en septembre avec l'ex-présentateur de Fort Boyard, Olivier Mine. Un adieu précipité à la scène, donc pour l'amoureux des lettres qui allait fêter ses 85 ans le 21 août prochain.
Yasmine Akatou du service Culture d'Europe 1. Il est 6h52, vous écoutez RRB. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Et évidemment, notre page sera consacrée aux Jeux Olympiques de Paris avec une nouvelle médaille. Elle est en bronze pour l'équipe de France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La Fiat Panda hybride à 1 695 000 francs. Ou peut-être le pick-up Renault Rock à 2 295 000 francs. Et pourquoi pas le SUV Ford Kuga à 2 995 000 francs.
En ce moment, dans tout le groupe Jondo, difficile de choisir tellement les offres sont incroyables sur toutes les marques du groupe. Offre valable uniquement sur les véhicules signalés. Possibilité de financement et d'assurance tout risque avec nos partenaires. Plus d'infos sur les pages Facebook du groupe Jondo.
À ces prix-là, pas d'hésitation. On y va. Groupe Jondo, depuis 50 ans à vos côtés.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomatin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et notre page spéciale JO.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et la 49e médaille de l'équipe de France, elle est en bronze et elle a été remportée en taekwondo dans la catégorie des moins de 58 kilos par Cyrian Ravet sur forfait de son adversaire puisque l'Italien Vito Dell'Aquila ne s'est pas présenté pour son combat. Il s'était blessé à l'adducteur gauche en demi-finale. Et puis une autre médaille est assurée pour ce matin en boxe. Le Français Sofiane Oumia sera en finale contre le Cubain Alvarez Borges. C'est à partir de 7h30. Pour le moment, la France est donc quatrième, je le disais, avec 49 médailles, dont 13 en or. L'Australie en compte 17, la Chine 24 et les États-Unis qui sont en tête du classement en ont 26 au tableau d'affichage. Et puis on jouait également en sport collectif ce matin. En volley, c'était les demi-finales chez les hommes. À 5h, la France affrontait l'Italie et s'est qualifiée pour la finale après une victoire 3-7-0 dans un bras de fer. Pour la médaille d'or, les coéquipiers de N'Gapet retrouveront donc la Pologne qui s'est hissée en finale après avoir gagné 3-7-2 contre les États-Unis. Les Polonais qui ont renversé leur adversaire puisqu'ils étaient menés 2-7-1 avant de s'imposer au tie-break. Et puis c'est l'histoire d'un énorme raté et d'un énorme gâchis en handball. Les Bleus et Nikola Karabatic, pour le dernier match de sa carrière, sortent en quart de finale de leur JO à la maison sur une erreur bête. Quelle déception donc pour les champions olympiques en titre, Martin Lange pour Europe 1.
Terrible scénario cet après-midi, des handballeurs, ils ont fait la course en tête tout le match contre l'Allemagne. Ils menaient encore de 2 buts à 1 minute du terme, puis l'Allemagne a marqué sur un jet de 7 mètres. Il restait 6 secondes, les Français avaient la balle, ils n'avaient qu'à laisser le temps s'écouler. Mehdi Kamem a bêtement rendu le ballon aux Allemands qui ont marqué au buzzer 29-29. Prolongation dans une ambiance irrespirable, même le chrono du stade Pierre-Mauroy n'a pas résisté. Et les Bleus ne sont jamais remis de cette bourde, défaite 35-34. Depuis les Jeux de Pékin en 2008, l'équipe de France de hand avait toujours atteint la finale du tournoi olympique. Terrible désillusion. Donc, qui plus est à domicile, et pour les adieux d'une légende du sport français, un Nikola Karabatic qui tire sa révérence à 40 ans.
C'est cruel, on doit le gagner ce match. Il doit y avoir 1% de chance qu'il revienne et qu'il gagne, et ça se passe. C'est terrible d'avoir un coup du destin comme ça, mais il faut l'accepter, c'est le sport. Pour moi, je savais que tout match sur cette saison pouvait être le dernier. J'aurais tellement aimé aller en demi-finale et gagner une médaille de plus pour cette équipe, pour moi, pour nos fans, pour nos supporters qui ont poussé tout au long de ces JO, et c'est dur, mais c'est comme ça.
Nikola Karabatic, à qui le public du stade Pierre-Mauroy a rendu un vibrant hommage, comme aux autres futurs retraités. Valentin Porte, mais aussi Vincent Gérard, le gardien auteur d'un match monumental, avec 24 arrêts. Malheureusement, ça n'aura pas suffi.
Et après cette défaite cruelle face à l'Allemagne, on peut considérer que la revanche est prise, puisqu'en basket chez les femmes, les Françaises ont battu l'Allemagne 84-71 et elles se qualifient pour les demi-finales de la compétition. Dans les autres quarts en basket féminin, l'Australie et la Belgique se sont d'ores et déjà qualifiées, tandis que les États-Unis affrontent en ce moment le Nigeria. En tennis de table, et 1 et 2 et 3-0, les frères Lebrun accompagnés de Simon Gauzy ont été expéditifs face au Brésil pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Alors ce sera très difficile pour cette équipe de France de ping-pong puisqu'elle affrontera en demi-finale les Chinois, ultra favoris de la compétition. Pour autant, Alexis Lebrun y croit.
On a fait un super match et je pense que on s'est tous régalés à la table et ça nous a permis de gagner 3-0, ce qui est parfait. Et pour demain, c'est vrai que jouer la Chine en demi des Jeux, c'est juste exceptionnel. Et même si on sait qu'évidemment ils sont super forts et largement favoris, on se dit que avec cette ambiance-là, s'il y a autant de Français que depuis le début de la compète et qu'ils nous poussent autant, on se dit que on peut peut-être créer l'exploit. Donc forcément, on a envie d'y croire, même si évidemment on sait qu'ils sont extrêmement forts et que ça va être très compliqué. Mais si on a une opportunité d'aller les chercher, on ne veut pas la rater.
Demi-finale donc entre la France et la Chine en tennis de table ce soir pour nous à partir de 19h. Et puis on suivra également les phases finales en escalade de vitesse avec Bassam Awem, ce sera ce soir.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et avant de refermer cette page, on va jouer ensemble.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon de carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Chaque jour dans le journal du matin et celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse au 31-46 jusqu'à 17h, qui est l'heure de notre grand tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans le journal du soir, vous aurez évidemment la réponse à la question du jour pour se cultiver et le nom du gagnant. Hier, c'est d'ailleurs Olivier qui a remporté les 5000 francs de carburant. Aujourd'hui, on vous pose cette question. Deux coureurs français sont engagés sur le marathon des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Mais lequel des deux s'est classé premier français ? Si c'est Alain Lazare, vous tapez JO1. Si c'est Jackie Boxberger, vous tapez JO2 et vous envoyez donc votre réponse par SMS au 3146. Voilà, vous avez maintenant jusqu'à 17h pour l'envoyer. C'est l'heure du tirage au sort parmi les bonnes réponses et le gagnant remporte, je le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire. Bonne chance à tous.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et pour que ce journal soit tout à fait complet, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et c'est finalement la journée la plus grise de la semaine, on peut le dire Thierry.
Oui, ce matin le ciel sera très nuageux à couvert avec quelques gouttes sur l'ouest et le sud et une averse sur le nord-est. De timides éclaircies seront possibles, ce sera du côté des Loyautés. Le vent sera orienté à l'est, compris entre 15 et 20 nœuds, localement 10 nœuds sur l'ouest, il atteindra 20 à 25 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30-35 nœuds sur la pointe nord et en sortie des vallées du nord-ouest. Cet après-midi, les éclaircies reviendront sur la façade ouest, ailleurs les nuages resteront très présents et donneront de petites pluies sur le sud et l'est, voire sur marée en fin de journée. En fin d'après-midi, sur l'est et le sud, le soleil arrivera parfois à percer. Le vent orienté toujours à l'est pour cet après-midi, entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord. Sur l'ouest, il se rapproche des 10 nœuds, voire faible par endroit. Les températures remontent un peu, elles oscilleront entre 22 et 26 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.